Monseigneur Georges Colomb, merci d'être avec nous sur Radio Maria.
Merci à vous. Bonjour aux auditeurs de Radio Maria. Voilà. Et donc, je vous remercie de me donner la parole et je vais ainsi pouvoir vous donner d'une part des nouvelles de mon diocèse et puis vous partager un petit peu ce qui a pu se passer et l'intérêt de cette semaine missionnaire mondiale que nous venons de vivre. Donc, comme vous le savez, je suis évêque de La Rochelle et Sainte et je suis également directeur des œuvres pontificales missionnaires. C'est à ce titre-là que je vais vous parler donc de la semaine missionnaire mondiale. Et j'ai été moi-même missionnaire en Chine et puis supérieur général de la Société des missions étrangères de Paris. Voilà. Donc, eh bien, donner des nouvelles d'un diocèse, bon, c'est toujours prendre un risque parce qu'on peut oublier des choses importantes et puis il ne faut pas non plus prendre le risque d'insatisfaction exagérée, si vous voulez. Voilà. Donc, j'ai simplement la joie de vivre dans un diocèse où, avec mon conseil épiscopal, essentiellement, que je réunis à peu près chaque semaine, puis mon conseil presbytéral, le conseil économique, ben nous avançons sur divers projets. Quoi. Donc l'un des projets qui a abouti, ça a été la rénovation de notre maison diocésaine, où nous accueillons aujourd'hui toutes sortes de personnes qui viennent pour des rencontres, des réunions. Tous les services du diocèse, qui jusqu'alors étaient dispersés sur La Rochelle et sur Sainte, sont rassemblés. Un foyer où nous accueillons 22 jeunes filles qui sont des étudiantes à l'école d'infirmière. Quelques studios où sont accueillis des prêtres aînés et aussi des internes en médecine. Voilà, donc c'est une maison bien remplie, où il y a différentes générations, en essayant de vivre une vie conviviale, une vie fraternelle. Une prière également, des célébrations quasi quotidiennes, les offices. Et puis pour les étudiantes, des conférences qui sont proposées une fois par mois dans la ville de Sainte. Et là, à La Rochelle, nous commençons les travaux dans mon évêché, qui restera mon évêché, mais qui aura une partie du bâtiment où il y avait des bureaux jadis, sera transformé en foyer d'étudiants dans une petite ville universitaire, La Rochelle, puisque nous avons 15 000 ou 16 000 étudiants. Nous aurons une petite vingtaine de studios pour accueillir des étudiants qui sont là et bien sûr leur proposer une vie fraternelle, pareil, une vie de prière, une vie avec quelques petits engagements dans notre église diocésaine. Voilà, donc c'est toujours une grande joie de pouvoir avancer sur certains projets. Nous avons la joie cette année d'avoir plusieurs séminaristes. Nous avons quatre au séminaire interdiocésain de Toulouse. Nous en avons un au Collège des Bernardins. Nous en avons un au séminaire français de Rome. Et un qui fait sa philosophie à Ars. Nous avons donc 7 séminaristes, plus un en propédeutique, plus 3 qui font l'année pour Dieu. Alors, ce ne sont pas des séminaristes, ceux-là, ce sont des jeunes gens qui réfléchissent. Ils pensent sérieusement à devenir prêtres, mais voilà, il faut prendre son temps et nous leur donnons, j'espère, les moyens pour cela. Et nous les accompagnons également pour cela. Et nous avons eu la joie de célébrer au mois de juin 4 ordinations. Hein. Alors, en raison de la pandémie, nous aurions dû les célébrer ensemble à la cathédrale Saint-Louis à La Rochelle. Mais pour que nous ayons un effectif un peu plus important, eh bien, nous avons fait une célébration avec 2 ordinants à La Rochelle en juin, donc, et 2 ordinants la semaine suivante à Sainte, puisque j'ai la chance d'avoir 2 cathédrales en Charente-Maritime, plus la cathédrale que nous avons aussi, bien sûr, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Donc c'est une. Et puis en plus, dans cette année, nous avons ordonné un diacre, ce qui veut que l'an prochain, nous aurons un prêtre. Voilà. Ça sera moins que cette année, mais voilà, ça sera quand même un prêtre. Donc c'est une. Voilà, c'est une joie de pouvoir accueillir cette jeunesse, qui est un petit peu qui prend le relais, en quelque sorte, hein, d'une tradition de prêtres de la Charente-Maritime. Jusqu'à présent, nous étions beaucoup aidés par les Bretons, par les Vendéens, les missionnaires de la plaine notamment. Voilà, mais ces instituts, d'abord les diocèses ont moins de vocation qu'autrefois, y compris les Vendéens et les Bretons. Donc nous avons aussi des prêtres qui viennent d'églises sœurs de l'Afrique, mais pas seulement, d'Haïti, du Vietnam, de la Chine, de l'Inde. C'est déjà pas mal. Ça en fait à peu près 30% du presbytérium actif, qui est composé de prêtres qui viennent envoyés par les églises sœurs. Ainsi, la France, qui était une terre qui envoyait des missionnaires, jadis, elle continue d'ailleurs à en envoyer, hein, mais en nombre moins important qu'autrefois, est aujourd'hui une terre qui accueille des missionnaires, parce que vous avez la moyenne nationale en France, nous avons grosso modo 30% de missionnaires qui viennent d'Afrique ou d'ailleurs, dans nos presbytères, dans notre presbytérium diocésain, et c'est une règle générale pour tous les diocèses de France. Voilà, c'est une grande joie. Et puisque je parle de missionnaires, eh bien la transition est facile à faire avec la semaine missionnaire que nous venons de vivre. Et alors là, j'ai été impliqué dans mon diocèse, bien sûr, mais aussi impliqué en tant que directeur national des œuvres pontificales missionnaires. Vous savez que c'est une très belle institution qui a été, dont Pauline Jaricot, donc une jeune lyonnaise, est à l'origine. Et c'est une organisation, les œuvres pontificales missionnaires, qui met l'accent sur deux choses. Maintenir éveillé l'esprit missionnaire en France et d'autre part inciter, favoriser la solidarité entre les églises du monde entier, c'est-à-dire que nous aidons un peu plus de 1100 diocèses dans le monde, notamment dans les pays les plus pauvres. Et l'avantage de cette semaine dernière, c'est que non seulement nous donnons des informations sur les églises du monde entier, sur la façon dont elles vivent, mais aussi nous suscitons un élan de générosité par le partage. Ce qu'il y a de beau aux œuvres pontificales missionnaires, aux OPM, comme on dit brièvement, c'est que qu'un pays soit riche ou qu'un pays soit pauvre, il participe à la collecte. C'est-à-dire les pays les plus pauvres du monde, comme le Laos par exemple, eh bien, l'église de Laos participe également à la collecte. Les Laotiens donnent ce qu'ils peuvent, ils donnent un petit peu. Et par contre, alors ne reçoivent que ceux qui sont vraiment dans les pays pauvres. Mais alors la France est exclue parce que, bien que nous ayons beaucoup de difficultés, la France est considérée à juste titre comme un pays riche et ne reçoit pas d'aide, mais elle contribue bien sûr au partage. Les catholiques français se montrent généreux. Et vous voyez, par exemple, le Saint-Père a fait un appel spécial il y a deux mois pour le Covid, pour aider les pays d'Afrique particulièrement touchés par le Covid. Et vous savez que dans ces pays-là, l'Église, non seulement à une mission, comme chez le cas chez nous en Europe, une mission pastorale, mais là, une mission sociale beaucoup plus importante et éducative. Dans certains pays d'Afrique, on ne veut pas dire pratiquement dans tous, s'il n'y avait pas l'Église catholique, il n'y aurait pas d'éducation, il n'y aurait pas de service hospitalier. Donc l'Église a une fonction sociale et fait établir un pont avec la société civile qui est indispensable. Donc elle a besoin de moyens. Eh bien, la campagne que nous avons faite à la demande du Saint-Père pour le Covid, campagne spéciale il y a déjà deux mois, nous a permis de collecter une somme importante et nous avons été remerciés par le préfet de la Congrégation pour l'évangélisation du peuple. La France est arrivée parmi les trois premiers pays, la Corée du Sud, la France, puis un autre pays dont le nom m'échappe, qui ont donné le maximum au cours de cette collecte. Donc voilà, nous pouvons, les catholiques français, lorsqu'ils sont motivés, lorsqu'on leur explique de quoi il s'agit, se montrent extrêmement généreux. Il faut le dire et il faut rendre grâce à Dieu pour cela. Voilà. Alors maintenant, nous continuons notre marche qui, petit à petit, va nous conduire au temps de l'Avent et puis à Noël, et en nous préparant justement à célébrer ces fêtes. Et puis, nous avons la chance d'avoir eu cette troisième encyclique du pontificat qui a été donnée par le pape François, cette encyclique sur la fraternité et la vie sociale, la charité sociale, qui a en quelque sorte complété les deux encycliques précédentes, notamment Laudato Si, qui a été donné il y a 5 ans, et dont on ne finit pas de parler, qui porte des fruits, comme vous le savez, dans l'Église et bien au-delà de l'Église. Voilà, en quelque sorte, le pape a été une démarche prophétique, en écrivant ce texte sur la protection de la maison commune, comme il l'a dit, parce que nous mesurons bien que, ne serait-ce que la crise que nous traversons actuellement, cette crise de la pandémie, a quand même un lien un peu direct, mais un lien avec ce non-respect de la nature qui caractérise l'homme contemporain dans sa quête de matérialisme et de croissance effrénée, qui ne mesure pas toujours les effets sur la création de ces agissements. L'enseignement de l'Église est là pour nous rappeler que respecter la création, c'est respecter le Créateur, c'est respecter Dieu. Et comme l'homme est à l'image de Dieu, respecter les dieux, c'est aussi respecter l'homme. Voilà, me semble-t-il, cet enseignement que nous pouvons retirer et qui peut nous être utile dans cette préparation qui nous attend, en entrant dans le temps de l'Avent, préparation qui nous attend pour Noël. Voilà un petit peu l'essentiel de ce que je comptais dire aux auditeurs de Radio Marie.
Merci beaucoup en tout cas pour tout ce que vous venez de nous apprendre. Je vais revenir un petit peu sur les œuvres pontificales missionnaires. Pourriez-vous nous dire justement quels biens font-elles, dans quel pays allez-vous, quelles sont les églises dans le monde qui sont aidées?
Oui, alors comme je vous l'ai dit, nous aidons 1100 églises. Alors vous voyez, c'est 1100 diocèses, hein, au moins. Un peu plus peut-être. Donc, vous voyez, c'est vous dire où nous sommes, ça serait un petit peu fastidieux. Je ne veux pas énumérer tous les pays, mais nous aidons le Liban, nous aidons les pays d'Afrique, surtout les continents. Hein, nous sommes présents, et même en Europe orientale, je crois que nous aidons quelques pays. Vous voyez, il y en a que, comme je le disais, c'est les œuvres pontificales missionnaires assurent une mission indispensable parce que. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est comme nous accueillons des prêtres qui viennent d'église sœur, le risque serait celui de la facilité. C'est-à-dire pour un évêque de dire, ben, écoute, moi j'ai des prêtres du Bénin, du Joseph, eh bien, je vais passer par eux pour aider les évêques qui sont très gentils, qui m'envoient des prêtres. Mais il y a un petit côté égoïste dans tout ça. J'aide parce qu'on m'aide. Hein. Tandis que quand j'apporte mon obole aux œuvres pontificales missionnaires, bon, ben, c'est pas moi qui vais décider, bien sûr, c'est Rome. Mais je vais aider ben, le brave évêque qui n'a pas forcément un carnet d'adresses rempli de copains évêques qui sont en Europe ou aux États-Unis. Hein. Et par conséquent, je vais aider celui qui n'a pas de carnet d'adresses, celui qui n'a pas de relation, mais qui néanmoins a un diocèse et qui, pour la mission dans son diocèse, a besoin d'aide. Donc, j'insiste là-dessus, c'est une aide objective, c'est une aide vraiment qui est indispensable pour les plus pauvres. Les plus pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, et puis aussi parce qu'ils n'ont pas les relations. Hein. L'évêque qui a fait sa formation à Rome, au séminaire français, ou à la Grégorienne, ou dans une autre université, ou bien qu'il l'a faite à Paris, ou à Lyon, ou ailleurs, ou à Toulouse, bon ben, il a des copains qui sont prêtres ou qui sont évêques en France, hein, et donc il reçoit des aides. Mais celui qui a fait sa formation dans son pays d'origine, il n'a pas forcément le même carnet d'adresse, voilà. Donc j'insiste là-dessus, les OPM sont indispensables et la mission est une urgence, ce n'est pas une option. Hein. Pauline Jéricot, la fondatrice de l'œuvre de la propagation de la foi, qui est à l'origine des œuvres pontificales missionnaires, elle a fait ça donc au début du 19e siècle. N'oublions pas qu'elle a mis l'accent sur deux choses, elle a mis l'accent sur l'action missionnaire, la mission en France, en s'intéressant aux ouvriers, en s'intéressant aux prostituées, hein. Elle, qui était d'un petit milieu bourgeois, hein, de Lyon, de Soyeux, elle a ouvert ses yeux sur le monde qui l'entourait, elle a vu la misère. Et elle s'est penchée au nom de l'Évangile sur ces pauvres, et elle a pris des initiatives très concrètes. Vouloir fonder une entreprise pour employer des chômeurs, pour employer des prostituées, c'est quelque chose de merveilleux. Et en même temps, elle a eu cette idée de s'intéresser à la Chine, le sou pour les missions, pour les Chinois, hein, le sou de Pauline, et en même temps, elle a bien perçu tout de suite que la mission sans la prière, sans la contemplation, ça ne marcherait pas. Donc, elle a fondé l'œuvre du rosaire vivant. Hein. Donc, la prière mariale pour les missions, inaugurée par Pauline. Il faut bien que Pauline, qui est née en 1799, à sa mort dans les années 1860, donc milieu du 19e siècle, elle rassemblait 1,2 million ou 1,3 million de membres dans son groupe de prière, le rosaire vivant. C'est quelque chose de fabuleux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y avait chez cette jeune fille une intuition, un souffle extraordinaire de l'Esprit Saint sur elle, et elle a fondé tout ça, elle n'avait pas 50 ans, elle en avait 17. Hein. Pauline Jéricot, c'est vraiment un exemple pour nous aujourd'hui. Hein. Elle est de son temps, mais elle n'a pas vieilli, elle est aussi de notre temps. Et elle nous invite à la contemplation et à la mission en France et ailleurs, à l'étranger.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour ce petit rappel voilà, qui nous concerne tous. Nous devons porter ce projet vraiment dans notre prière, tous intervenir. Voilà. Chaque auditeur, on arrive déjà voilà. au terme de l'émission. Peut-être, Monseigneur, pourriez-vous nous bénir Radio Maria et ses auditeurs?
Eh bien, que le Seigneur bénisse Radio Maria, je me réjouis de la présence de votre radio, je me réjouis de ses messages, et par l'intercession de Marie, je demande au Seigneur de vous bénir, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, de bénir tous les auditeurs et de bénir tous les projets que grâce à votre radio, que par votre radio, vous soutenez par l'information que vous donnez et par la prière de vous-même, de votre équipe et de tous les auditeurs.
Merci beaucoup, Monseigneur, et en union de prière, merci.
Union de prière, merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Merci, madame, au revoir.
Au revoir.